le journal de Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Le scandale Pegasus prend de l'ampleur. Le président Emmanuel Macron, mais aussi son ex-premier ministre Édouard Philippe et 14 ministres, ainsi que des députés, des chefs de parti, leurs numéros ont été ciblés pour une potentielle surveillance. Y a-t-il des failles de sécurité dans les communications au sein du gouvernement? On en parle à 8h20, Karine.
Oui, avec trois invités dans le grand entretien pour tenter de comprendre comment le président Macron, comment son ancien premier ministre et de nombreuses autres personnalités politiques ont pu se retrouver ciblés par le Maroc. Il s'agirait de la plus grande affaire d'espionnage depuis l'affaire Snowden. Les révélations de Forbidden Stories inquiètent. Comment on a pu en arriver là et quelles en seront les conséquences? À ce micro tout à l'heure, Jacques Monin de la cellule investigation de Radio France, partenaire de l'enquête, Étienne Meignier, chercheur en sécurité à Amnesty International, et le député de La République En Marche, François de Rugy. Rendez-vous à 8h20 avec vos questions, vos réactions comme toujours au 01 45 24 7000.
La circulation du Covid-19 continue d'accélérer en France et le pass sanitaire exigé au musée, au cinéma et à la piscine, c'est à partir d'aujourd'hui au Louvre. Les agents sont prêts, nous expliquera la responsable de l'accueil. En Chine, des inondations ont contraint 200 000 personnes à évacuer leur logement. Nous entendrons le témoignage d'un homme qui s'est retrouvé piégé par l'eau dans le métro au centre du pays. Et puis décevant, c'est le bilan des soldes d'été qui se termine la semaine prochaine. Et enfin, l'histoire vraie d'un soldat japonais vu par un cinéaste français, c'est Onoda d'Arthur Harari qui sort en salle aujourd'hui.
France Inter.
Après les journalistes, les avocats et les opposants politiques, le scandale Pegasus ne cesse de prendre de l'ampleur. Dernière révélation de France Inter sur ce logiciel espion israélien vendu à des États peu scrupuleux. L'un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron figure sur une liste de cibles potentielles visées par les services secrets marocains. Dans cette liste dévoilée par un consortium international de journalistes, dont fait partie la cellule d'investigation de Radio France, il y a aussi le numéro de 15 ministres et de parlementaires de tout bord. Surpris et indignés, les élus demandent des explications. Reportage à l'Assemblée nationale de Claire Flochel et Élodie Forêt.
Ancien patron des marcheurs à l'Assemblée, Gilles Legendre figure sur la longue liste des responsables politiques ciblés par le Maroc.
Les origines, les motivations me concernant demeurent extraordinairement incertaines. Je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est dénoncer cet acte d'espionnage à grande échelle. À ce stade, je n'ai rien à dire de plus.
Visé lui aussi le député insoumis Adrien Quatennens, qui, comme les autres, l'a appris hier dans la presse. Son collègue Hugo Bernalicis s'en étonne.
Si on le découvre par la presse et pas par les ministères, même le gouvernement lui-même et nos services de protection, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ou les services de renseignement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Les insoumis qui ont attendu hier en vain des réponses du Premier ministre, le gouvernement était-il au courant des pratiques marocaines? Utilise-t-il des technologies similaires? A-t-on les moyens de riposter? Se demande aussi l'opposition. Le LR Philippe Gosselin n'en est pas sûr.
Je trouve ça scandaleux. C'est une atteinte à une forme de souveraineté. Mais on est un peu démunis et je ne vois pas concrètement comment on peut efficacement lutter contre ce genre d'affaires.
Plus tranché, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui attaque le gouvernement. Si les conversations du président ont bien été écoutées, écrit-il, il s'agirait d'un fiasco touchant la sécurité nationale.
Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves, a sobrement réagi hier l'Élysée dans un communiqué. Et en effet, au-delà du scandale d'espionnage, l'affaire pose la question de l'usage plus ou moins prudent de leur téléphone par les ministres. Et il y a clairement des progrès à faire. Yael Gauze.
Quand un ministre prend ses fonctions et son cabinet avec, il est systématiquement briefé par un haut fonctionnaire spécialisé. Ne pas laisser son téléphone dans une chambre d'hôtel, ne jamais le brancher sur le port USB d'un taxi, des conseils, et puis la remise d'un téléphone Samsung crypté. C'est ce numéro qu'il faut utiliser pour les échanges confidentiels au sein du gouvernement. Mais nombreux sont les ministres qui se plaignent d'une technologie trop lourde, trop lente, et préfèrent, sauf pour leur mail ou leur agenda, continuer sur les applis de leur propre smartphone. Personne n'arrive à se passer de son téléphone, car on n'est pas ministre à vie, m'a confié un membre du gouvernement, pourtant très exposé. Certaines règles sont en revanche scrupuleusement respectées. Aucun téléphone toléré dans l'enceinte d'un conseil des ministres ou d'un conseil de défense. De quoi Pegasus est-il le nom? De la vulnérabilité de nos systèmes et de nos démocraties, estime un ministre de premier plan, inquiet pour la campagne présidentielle. Voilà qui justifie pleinement, dit Matignon, la création en septembre d'une agence spécialisée qui mobilisera à terme gendarmes 60 personnes pour traquer les manipulations d'informations en provenance de l'étranger.
Voilà l'affaire Pegasus pour tout savoir sur nos révélations et les réactions. Dossier complet à retrouver sur franceinter.fr.
Sur le front de l'épidémie de Covid-19, les contaminations montent en flèche.
Oui, avec 18 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures en France, un nouveau conseil de défense est prévu ce matin autour d'Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex s'exprimera sur TF1 à 13h. L'examen du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire commence aujourd'hui dans l'hémicycle. Les députés ont déposé 600 amendements sur le texte. Parmi les changements votés hier en commission des lois, un report de l'entrée en application du pass sanitaire pour les 12-17 ans au 30 septembre. La mesure sera débattue en séance publique aujourd'hui. Et dans les lieux de loisirs et de culture, le pass sanitaire élargi entre en vigueur dès aujourd'hui. C'est le cas au Louvre, bien sûr, le plus grand musée du monde, a formé ses agents d'accueil à contrôler les QR codes ou les attestations papier des visiteurs. Écoutez Servane de Lancer, la responsable de l'accueil du public et de la surveillance.
À l'entrée du musée, en tout cas à l'entrée des files d'attente à l'extérieur du musée, nous allons mettre en place un contrôle des passes sanitaires et des justificatifs sanitaires pour nos visiteurs avant même l'entrée dans le bâtiment. Concrètement, ça veut dire que les agents qui ont déjà pour mission de contrôler les billets, de contrôler les réservations, ils devront donc ajouter le contrôle des passes sanitaires. Nous avons redéployé les effectifs, nous n'avons pas mis plus d'agents, ce sont des postes de travail dont les missions du coup évoluent. On espère que ce sera relativement fluide. Après, les agents seront équipés de smartphones avec l'appli Tout Sauf Petit Covid pour vérifier les QR codes notamment. Donc on espère que techniquement ça fonctionnera bien et que ce sera relativement fluide. En l'état actuel, il n'y a pas d'évolution d'assouplissement des consignes à l'intérieur du musée. Pour le moment, tout le monde conserve le masque. Nous maintenons l'essence de circulation recommandée, voire imposée dans certains secteurs fréquentés. Et nous rappelons à nos visiteurs les gestes barrières, la distanciation. Pas d'évolution des consignes pour le moment.
Servane de Lancer avec Isabelle Pasquier. Nos voisins italiens regardent avec intérêt ce qui se passe en France. Rome réfléchit également à mettre en place un pass sanitaire, mais au sein du gouvernement, difficile de trouver un consensus. Bruce de Galzin.
C'est à droite que l'on est le plus virulent. Matteo Salvini, le chef de la Ligue qui est représenté dans le gouvernement, ne veut pas punir les jeunes et les restaurateurs, notamment avec un pass sanitaire.
Pour les grands événements où il y a des milliers de personnes, les stades, les grandes manifestations, ok. Mais pour chasser celui qui va prendre un cappuccino ou manger une pizza, alors là, non. En plus, tous les jeunes de 15, 20, 30 et 40 ans n'auront jamais la deuxième dose avant l'automne.
Le pass sanitaire devrait malgré tout voir le jour pour les activités dans les lieux clos, mais sans doute pas en terrasse des bars et restaurants, et pas avant le mois d'août, voire la mi-août, dans le secteur touristique, car le pays s'inquiète déjà pour sa saison. Mais c'est bien la France qui montre l'exemple, ce que ne supporte pas Giorgia Meloni, la seule opposition aujourd'hui en Italie avec son parti d'extrême droite.
Aujourd'hui, on parle de Macron comme d'un modèle pour nous tous. Moi, je préfère Merkel, vous imaginez. Mais elle dit exactement ce que je dis. On ne résout pas le problème de la vaccination en obligeant à se faire vacciner. Ou même avec le pass sanitaire qui est en fait une obligation vaccinale, mais sans avoir le courage de le dire.
L'Italie oblige depuis plus de 3 mois les soignants à être vaccinés. Le gouvernement réfléchit à obliger désormais les enseignants. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et la vaccination, justement, elle aussi accélère en France. Le pays devrait atteindre les 40 millions de premières doses injectées d'ici fin juillet, en avance sur les prévisions. À Marseille, un quatrième centre de vaccination municipale a ouvert ses portes dans le centre commercial de Grand Littoral, au cœur des quartiers nord. Dans ce secteur, la ville enregistre son taux de vaccination le plus bas, 25% de primo-vaccinés seulement. Mathilde Vinceneuve.
Entre deux boutiques, le centre de vaccination fait le plein, beaucoup se présentent spontanément grâce aux bouches à oreille.
J'étais à la maison, hop, je me suis enfilé quelque chose et je suis partie.
Fatima habite à quelques minutes à pied.
Je viens régulièrement faire mes courses ici, donc c'est très pratique. Ça incite les gens à y aller plus facilement.
La flexibilité, la proximité peuvent être déterminantes. Louis, 20 ans, est venu sur un coup de tête.
En voiture, on est à 10 minutes, même pas.
Vous l'auriez fait s'il fallait aller à l'autre bout de la ville ou...
Non, déjà que je ne veux pas le faire. Là, je l'ai fait juste parce que ma mère aimait de le faire, sinon je ne l'aurais pas fait.
Dans les quartiers nord, seule une personne sur 4 a reçu une première dose, contre une personne sur 2 dans les quartiers les plus chics de la ville. Une différence dont a bien conscience Michel Rubirola, adjointe à la santé.
C'est quand même dans les quartiers nord où il y a une fracture encore sanitaire qui existe. Pourquoi ? Parce que les gens ont plus de difficultés déjà pour se déplacer par le manque de transport en commun. Mais il y a quand même aussi la difficulté de prendre des rendez-vous, c'est Internet. Et bien, il y a aussi cette difficulté que les gens ont à adhérer à un dispositif parce qu'ils ont été abandonnés dans ces quartiers.
Ce nouveau centre de vaccination restera ouvert au moins jusqu'à la fin du mois de juillet. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
À l'étranger, des inondations dramatiques dues aux intempéries en Chine.
Oui, c'est la conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province du Henan. 200 000 personnes ont dû être évacuées en raison donc des inondations. 12 personnes sont mortes noyées dans le métro dans la ville de Zhangzhou, au centre du pays. Écoutez le témoignage de cet homme qui a passé 3 heures dans le métro, recueilli par la télévision chinoise.
Pour nager, j'ai enlevé presque tous mes vêtements. J'ai seulement gardé le pantalon, j'ai jeté mon sac à dos et tout le reste. Ensuite, on s'est tous accrochés à la rampe parce que le courant était trop fort. L'eau est montée jusqu'aux épaules. Moi et un enfant, on était épuisés. Nous n'avions plus d'énergie pour nager. On a failli abandonner. Tu vois, j'ai plein de blessures sur les bras parce que je me suis accroché à l'arbre.
Et un barrage menace de céder près de la ville de Luoyang, toujours dans cette même province du Henan. Rendre les biens mal acquis aux populations spoliées par leurs dirigeants, c'est l'objectif d'une loi définitivement adoptée hier par le Parlement français. Le premier État à en bénéficier pourrait être la Guinée équatoriale. Une fois la condamnation de son vice-président Théodorin Obiang, devenue définitive par la Cour de cassation, on attend la décision fin juillet, il avait été condamné par la Cour d'appel de Paris à restituer près de 150 millions d'euros dépensés dans l'achat d'immeubles et de voitures de luxe en France. Alors comment l'argent va-t-il être restitué et à qui ? Écoutez les explications de Sarah Brimboeuf, spécialiste des biens mal acquis chez Transparency International.
Une fois que la personne poursuivie a été sanctionnée, a été condamnée, il va falloir procéder à la vente de ses biens, hôtels particuliers, villas, etc. Et une fois que les biens ont été vendus, ils seront transférés sur une ligne budgétaire spécifique au sein du budget de l'État. Donc il y aura vraiment une articulation entre le ministère des Affaires étrangères et puis les acteurs qui procéderont à l'allocation des biens, donc qui ont une expertise en matière d'aide au développement, donc l'AFD, l'Agence française de développement par exemple, mais pas seulement, éventuellement des ONG internationales qui pourront candidater à des appels d'offres pour participer au financement de projets, etc. On sait que ces procédures, elles sont susceptibles de concerner des sommes d'argent considérables. L'affaire équato-guinéenne, on parle de plus de 150 millions d'euros d'avoirs confisqués. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça permettrait de vacciner 3 fois la population en Guinée équatoriale.
Sarah Brimboeuf de Transparency International, elle répondait à Jean-Philippe Degnaud. Dernier jour pour profiter des soldes d'été après 3 semaines de démarque. Malgré une ruée dans les magasins au moment du déconfinement en mai, le bilan s'annonce décevant. Les explications de Delphine Simon.
Le soufflet est très vite retombé après l'explosion de la fréquentation dans les boutiques au mois de mai. Les incertitudes du variant Delta pèsent sur la consommation des ménages, sans compter les dates de soldes avancées cette année. Le modèle est obsolète, dénonce Franck Ouet, représentant de la Fédération de l'habillement.
Il y a eu afflux de clientèle, mais ça a duré 3 semaines. Et puis après, on a senti un net ralentissement. Je crois que l'annonce des soldes au 30 juin a coupé net l'envie de consommer.
Entre les réductions, les promotions, les ventes privées, l'intérêt pour les soldes s'émousse, reconnaît Gildas Mainvieille, qui dirige l'Observatoire économique du secteur à l'Institut français de la mode. Mais il observe malgré tout un sursaut en juin.
On a pour la première fois donc un niveau d'un mois de 2021 qui est supérieur au même mois de 2019. Donc on est à plus 2,7. Et ça veut dire que après la réouverture du 19 mai, les consommateurs sont contents de retrouver le chemin des boutiques. C'est une bonne nouvelle.
Insuffisant pour effacer les pertes. Sur 2 ans, les ventes de textiles reculent de 22%. Or, il va falloir rembourser les prêts garantis par l'État en avril prochain. Un tiers des boutiques d'habillement les ont entièrement consommées.
Allez, pour terminer, l'histoire vraie d'un soldat japonais vu par un cinéaste français. C'est le film Onoda d'Arthur Harari qui sort en salle aujourd'hui. Le long métrage retrace l'odyssée intime d'un perdant de la Seconde Guerre mondiale, exilé dans la jungle pendant 30 ans après la capitulation du Japon. Le militaire n'a finalement déposé les armes qu'en 1974. Alexis de Meyer.
C'est le plus célèbre des traînards, ces soldats japonais qui ont continué de se battre malgré la capitulation de leur pays en 1945. Le lieutenant Onoda a poursuivi sa mission de guérilla dans la jungle philippine pendant 30 ans, ses supérieurs ayant tout simplement oublié de le prévenir. Le cinéaste Arthur Harari a découvert cette histoire vraie au hasard d'une lecture.
On peut dire il ne savait pas, en fait il avait les moyens de savoir parce qu'on lui a dit que la guerre était finie, on est revenu lui dire plusieurs fois, et peut-être qu'en fait il savait et qu'une partie de lui ne voulait pas accepter, peut-être qu'il avait envie d'être loin, d'être seul, d'être plus que les autres, c'est toutes ces questions-là que ça pose.
Le tournage entièrement en japonais a duré 3 mois dans la moiteur de la forêt cambodgienne. Onoda est un grand film de guerre qui s'inscrit modestement dans la prestigieuse lignée d'Apocalypse Now et autres Full Metal Jacket. Pendant près de 3 heures, Arthur Harari parvient à nous faire entrer dans la tête de ce héros complexe et ambigu.
Il y a quelque chose sur la promesse, sur le fait de tenir une parole, mais jusqu'à l'absurde et même jusqu'à une forme de transgression morale, puisque c'est quand même quelqu'un qui, pendant 30 ans, s'est cru autorisé à tuer des gens. C'était pour moi aussi une manière de parler de mon rapport à la réalité. J'ai toujours eu besoin d'une autre histoire en parallèle que celle que je vivais tous les jours.
Onoda est un film sur l'absurdité de la guerre, sur le patriotisme et sur les croyances qui prennent le pas sur la raison. C'est une façon aussi d'évoquer des thèmes très actuels comme l'emprise des gourous et les théories du complot.
Voilà, et même si vous ne parlez pas le japonais dans le texte, Onoda, c'est le conseil cinéma d'Alexis Demeyer.
Merci Corinne Audouin, je vous dis à demain. La météo.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Stéphanie, le ciel est d'un bleu azur.
C'est ça, car le soleil est très généreux, mais quelques nuages élevés transitent tout de même sur la Provence et les Alpes ce matin, et quelques nuages décoratifs bourgeonnent cet après-midi entre la Normandie et les Hauts-de-France. La matinée sera aussi plus grise sur le bassin aquitain à cause de nuages bas. Ce sont des entrées maritimes qui vont évoluer favorablement avant la mi-journée, même si quelques poches pourraient persister sur le littoral cet après-midi. En montagne, après une matinée ensoleillée, il faudra s'attendre à quelques averses sur les hauteurs, notamment de la Corse, des Alpes du Sud et des Pyrénées, voire du Jura et du Massif central. Des coups de tonnerre ne sont pas exclus, notamment entre le Cantal et la Haute-Loire.
Et le mercure est en belle forme.
Belle forme. Les températures sont le plus souvent au-dessus des normales de saison. Vous pourrez compter sur 26 degrés à Arcachon comme à Valenciennes, 28 à Mulhouse, Amiens et Saint-Étienne, 30 degrés à Paris, Douarnenez, Aurillac et Châteauroux, 32 degrés à Calvi et Saint-Nazaire, 33 à Marignane et Port-de-Bouc, 36 à Brignoles et Orange, jusqu'à 37 degrés à Sète et Saint-Cyprien.
Que des bonnes nouvelles. À tout à l'heure, Stéphanie.
À tout à l'heure.
Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, sur France Inter.
Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Vous nous emmenez le long du Nil ce matin entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie.
Alors c'est un voyage que j'aurais adoré à faire avec vous Karine.
Moi aussi.
Mais oui, mais le trajet de ce matin est plus économique et géostratégique que touristique. Il commence par cette info cruciale. L'Éthiopie a commencé le deuxième remplissage du réservoir de son barrage sur le Nil. Ça n'a l'air de rien cette info, sauf que le barrage en question, le grand barrage éthiopien de la Renaissance, est un colosse. C'est le plus grand ouvrage hydroélectrique jamais construit en Afrique devant le barrage égyptien d'Assouan. Lorsqu'il sera terminé, il produira lui seul 6000 mégawatts d'électricité, c'est-à-dire l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. À lui seul, il doublera, voire triplera la production d'électricité éthiopienne et son réservoir pourra retenir 74 milliards de mètres cubes d'eau douce, un véritable mastodonte et aussi une fierté nationale, ce barrage, d'autant qu'il a été édifié sans recours à l'aide internationale. Chaque Éthiopien a versé des années durant un peu de son salaire pour le terminer. En tout, 5 milliards de dollars d'investissement. Et voilà, il se remplit enfin.
Je sens que tout n'est pas si rose et si joyeux.
Vous commencez à me connaître, hein, c'est bien, c'est bien. En aval du barrage en question, il y a deux pays concernés, le Soudan et surtout l'Égypte. L'Égypte est à la fois la puissance économique et militaire de la région et dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau potable. L'Égypte et ses 100 millions d'habitants refusent depuis des années que l'Éthiopie remplisse ce barrage trop vite. Elle propose un remplissage du réservoir sur 15 ans au lieu de 5 à 7 ans. L'Égypte qui menace régulièrement d'intervenir militairement. L'affaire se complique d'autant que le Soudan, lui, est plus conciliant, d'une part parce que Khartoum s'est toujours méfié des rodomontades égyptiennes, et puis d'autre part parce que l'Éthiopie lui a promis de lui vendre de l'électricité à prix coûtant.
Mais alors, qui a raison et qui a tort dans cette affaire ?
Objectivement, l'Égypte a tout faux. D'abord, le partage actuel des eaux du Nil découle d'un traité léonin de 1959, et qui ne laissait presque rien à l'Éthiopie et très peu au Soudan. C'est le Caire qui s'est réservé la part du lion. Ensuite, l'Égypte est d'une mauvaise foi évidente. Le remplissage après la saison des pluies du barrage éthiopien ne menace absolument pas son approvisionnement en eau. Son propre barrage, celui d'Assouan donc, est rempli à ras-bord et retient bien assez d'eau pour l'année à venir. La vérité, c'est que l'Égypte déteste l'idée qu'une nouvelle puissance soit en train de naître dans une région qu'elle contrôlait et surplombait depuis toujours. L'Éthiopie et ses 100 millions d'habitants, elle aussi, est en train de rivaliser et de relativiser la puissance égyptienne. Ce qui est vrai, c'est qu'en retenant les eaux du Nil, Addis Abeba obtient une voix au chapitre des discussions sur l'avenir de cette sous-région d'Afrique. Mmh. Et c'est cela, et uniquement cela, qui insupporte l'Égypte à savoir partager.
Géopolitique, merci Anthony Bélanger. À suivre, le grand entretien consacré au probable espionnage du président Macron par le Maroc.